France Musique.
Merci Philippe Cassard. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle note du traducteur.
1, 2, 3. Bah, hein ? Encore une fois ?
Chers écoutants, bienvenue dans le Cri du Patchwork à l'écoute de l'inentendu. Dernier épisode de notre mois consacré aux communications entre improvisation et composition. Et pour clore ce débat qui pourrait nous prendre toute l'année, je reçois à ce micro Lekwan Nin, improvisateur et initiateur de l'ensemble Hiatus, pour que nous évoquions ensemble la place de l'improvisation dans les compositions appelées ouvertes. Et comme chaque samedi, un zoom sur une œuvre de la fin du XXe siècle et un son totalement désossé. Le cri du patchwork, thème numéro 6, épisode numéro 4, séquence numéro 1.
Eh, qu'est-ce que vous avez fait encore ?
Pas étouffé.
Eh oui.
Le son de la semaine.
Chapi, chapeau, patapo, chapeau, chapi, patapi, biribi, bibi, abada, dada. Pacha, pacho, pitipo, pacho, pacha, pitipa.
Les babillages, cette forme de communication buccale qu'acquièrent les bébés, progressivement. Et de manière innée, ils improvisent de plus en plus longtemps avec de plus en plus de formes reconnaissables, y insérant les grands standards du babillage comme le fameux « areux », mais surtout l'incroyable « dada » que l'on vient d'entendre dans l'indicatif de chapi-chapeau. Et de cette syllabe en itération « da », est issu le nom du mouvement esthétique du début du XXe siècle, qui réunit alors la crème de l'expérimentation. Dada. Surtout dans ce que la voix peut et doit faire.
Mesdames, messieurs, les Dadazov vous récitent quelques poèmes de 1918. Ladies and gentlemen, the Dadazov speaks some historical poems phonetic from 1918. Meine Damen, meine Herren, der Dadazov spricht für Sie einige historische Lautgedichte von 1918. Ba 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 ba. Gnome, gnomum, on a poo, et so so, kili 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 korum, snount sound, kum nount sound, da do do da, iri da doont, tnum, kolakum, on a mount. Ba 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 ba
ba ba ba ba ba ba ba. C'est le thème, la souche de ce poème phonétique de Raoul Haussmann, cofondateur du Dada à Berlin en 1918. Une forme de babillage écrit qui ouvre le XXe siècle de la poésie sonore. Et si l'on demande au plasticien Kurt Schwitters de faire une sonate à partir de ce Fumsbewettetseu, ça donne ça.
Kurt Schwitters spricht Teile seiner Sonate mit Urlauten.
Derbebe, derbebe, fumbe. Rrrr, be, be, fin, be, be. Be, fin, be, be, te. Fums, be, be, te, te, u. Pegif, vie. Se de sin, rrri, iem, titu, to, te. Du, ka. Rinsa, ka, de, be, be, hun, skrmu. Tiu, hun, se, tiu, rin, skrmu. Raka, te, be, be. Rum, te, to. Tiu, hun, se, tiu, hun, skrmu.
Le Le babillage ou babile a plusieurs sens. Il définit aussi bien le langage élémentaire des petits-enfants comme le bavardage superficiel, le jacassement. En ce sens, on parle de babile des oiseaux, par leur débit constant de chants, de communication sur lesquels nous n'arrivons pas à mettre de sens. Est babile ce qui est difficilement compréhensible, en gros. François Bayle, dans ses rêves d'oiseaux, mélange aux oiseaux électroniques qu'il génère des voix, accélérées, multipliées, qui ne portent plus de mots mais des formes de babile. Le babillage est un ensemble de bribes de paroles, de bruits, de sons de bouche, de gorge, souvent incontrôlés et imprévisibles. Du pain béni pour les musiciens monteurs des musiques électroacoustiques. Comme ici, dans « Cris et babil » de Michel Chion, où la souche de toute sa pièce, le babil d'enfant, n'apparaît qu'à la toute fin de l'œuvre. L'anthropologue Hélène Dissanayake voit dans la capacité des bébés à babiller la source de notre capacité à improviser musicalement. En imitant les sons des parents ou en créant des sons qui seront imités par l'extérieur, le bébé se forge une oreille musicale, une aptitude à réagir et à inventer dans l'instant, c'est-à-dire à improviser. Aujourd'hui, à la suite des Dada et de leurs poèmes sonores, les vocalistes improvisateurs tendent à rejoindre cette forme d'expression buccale. Parmi tant d'autres, Catherine Jauniot est un exemple frappant de cette virtuosité de la voix moderne, naviguant entre le registre chanté et l'expression vocale brute, jusqu'au babillage, au balbutiement en imitation, comme dans cet extrait de Portrait griffonné, en compagnie de Carole Rieusec, où elle tente une imitation de l'inflexion de la voix parlée par des sons de bouche proches de ce qu'un bébé pourrait improviser.
Les Allemands disent ça sur Bruxelles, apparemment ils étaient tous au courant que les terroristes allaient faire sur la planète. Après, donc on peut dire qu'ils étaient au courant aussi pour le voir, parce que c'était un terrible, ils ont assassiné. Je ne sais pas beaucoup, mais... Moi je crois pas que des petits terroristes comme ça...
Ha ha ha!
le babillage comme une langue inventée que ne comprendrait que son créateur. C'est peut-être pour cela qu'à la Renaissance, fréquemment, on fait le lien étymologique entre « Babil » et la tour de Babel, comme si le babil était une langue universelle. Et pourtant, babil est simplement né d'une onomatopée, d'un bégaiement, comme le balbutiement. Aussi compte-t-on quantité de pièces vocales en langage inventé à partir d'une réunion de plusieurs langues déjà existantes, et ce depuis au moins le début du XVIe siècle. Le compositeur Jean-Marc Singier, joueur de mots et de sons, emprunte, lui, à la poésie d'André Martel, faite de mots valises, de phonèmes explosifs. Dans « Blablaïka », composé en 1990, on cherche à comprendre ce que ces voix balbutient.
Ce peu que se relève pas.
Pour le bois trop,
pour le bois trop,
c'est
pas
si c'est pas si fort que ce soit.
Le profiteur, on le casse fait dans des langues de
titre. Et on le
casse aussi. Quand ceci, ça s'est passé. Ce qui crée le monde. Et c'est si sûr que si ça se
fait.
La patronne du baril, c'est pas le bon acteur, mais la chimique du docteur, son top de
Babiller, c'est aussi dire n'importe quoi, dans l'intention de créer une langue rythmique. Que ce soit dans le scat, des improvisations jazz, ou dans cet extrait d'un mambo de la chanteuse Graziella, ou Blabadou. Le babil de Graziella se dévoile alors à la toute fin de son mambo. Le compositeur, Pepe Becquet, a certainement cherché à imiter le babil des enfants.
I, a, a, ou, oléako, pero que lo que pasa aquí con la B, ba, 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 ou blabadou, ou blabouda, ou blabodo.
Dans le babil d'un bébé, il y a aussi cette notion d'effort, comme si chaque son demandait une concentration, une étape à franchir. Chaque phonème acquis devient alors une victoire pour l'enfant qui trouve une voie, du sens.
Bye.
lorsque l'aphasie nous fait revenir à l'état de babillage. Dans cette œuvre de 1990, dont nous écoutons un extrait, le compositeur Gyorgy Kurtag emprunte à Samuel Beckett son dernier texte, « What is the word ?» Quel est le dernier mot ? Pour évoquer la perte du langage. C'était le cas de l'actrice Ildikó Moniok, qui, en 1982, après un accident de voiture, fut frappée d'aphasie avant de devoir réapprendre à parler. Avec ses efforts pour acquérir chaque phonème, comme un enfant qui cherche à ce qu'on le comprenne dans ses sons qu'il crée. Plus question de sens, la voix n'est plus qu'un son avant de devenir un flux de mots. À l'opposé, le babil est aussi une logorée continue. Et c'est peut-être pour cela qu'en anglais, le murmure d'un ruisseau se dit « the babbling brook », le ruisseau qui babille. Et c'est vrai qu'on imagine très bien des quantités de petits êtres qui discutent en continu sans s'écouter. Un ruisseau qui parle, qui babille. Et c'est peut-être ce qu'a tenté de créer Marc Monet dans son œuvre pour percussion électronique Bibi Lolo, où des voix babillantes s'échappent en solo, discutent sans s'écouter, se croisent dans tous les sens. Un moment où l'on s'amuse avec le débit de la voix, qu'elle soit vocale ou électronique. Du ruisseau à Bibi Lolo, babiller, c'est avant tout s'amuser. Gabriel.
Qu'on y arrive. Hein, c'est pas compliqué quand même.
France Musique.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun.
Les Kwanin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur de l'ensemble Hiatus, mais surtout improvisateur, et je vous invite aujourd'hui pour parler ensemble de la part d'improvisation ou de liberté dans ce que l'on appelle les musiques ouvertes. Et vous êtes un grand interprète de musique ouverte avec l'ensemble Hiatus. Qu'est-ce que c'est que la musique ouverte ?
C'est vrai que c'est la question à se poser, c'est surtout se poser la question de ouverte à quoi. Alors bien sûr, ouverte peut-être par rapport à une musique qui serait fermée, c'est-à-dire qui, comme par exemple un nocturne de Chopin serait fermé. Or, une fois interprétée, enfin, sur le moment d'interprétation, elle n'est plus tout fermée, elle est aussi ouverte au déploiement des ondes sonores qui sortent d'un piano, par exemple, donc sous les doigts d'un pianiste qui a toute son histoire. Donc on dit ouverte, bien sûr, historiquement, parce qu'il y a des musiques qui ont été développées par processus, hein, et qu'on laisse le processus se déployer de lui-même, et au bout du compte, le résultat en tant qu'objet, je dirais, musical, échappe à l'imagination même du compositeur. Donc c'est peut-être comme ça qu'il faut l'aborder, mais c'est aussi souvent qu'elles sont ouvertes à la créativité des interprètes.
Est-ce que là, on peut parler d'improvisation de l'interprète ?
Alors là, c'est vraiment, on peut passer beaucoup, beaucoup de temps à penser à ça. En tout cas, si on se réfère à l'expérience réellement, qui est celle d'improviser librement, par exemple. Et encore, il faudrait pouvoir justement donner aussi une définition valable avec les mots de ce que voudrait dire librement, c'est-à-dire aussi improvisation libre, libre de quoi, un peu comme tout à l'heure la question de ouverte à quoi. Eh bien, par expérience, le fait d'improviser librement et le fait d'avoir une partition même ouverte, ce n'est pas du tout la même expérience. Simplement, c'est peut-être parce que la partition en soi donc, est une présence dans le réel qui, j'ai l'impression, agit un peu comme une singularité, c'est-à-dire un peu comme un trou noir, c'est-à-dire qu'elle va attirer énormément de choses à elle. Donc, cette présence-là n'est pas du tout anodine. Mmh. Donc, même si la pièce va demander beaucoup de créativité, c'est-à-dire que l'œuvre, elle va être, je dirais, constituée, finie
par,
si
l'interprète. Toutefois,
par l'interprète, en tout cas dans sa forme. Après, elle n'est pas forcément finie au sens après de l'écoute ou au sens de comment elle va se dérouler. Mais en tout cas, elle est un élément qui perturbe absolument le réel, qui en fait partie, mais avec la force d'une singularité, c'est-à-dire avec la force d'une attraction extraordinaire. Mmh. C'est-à-dire que sa présence est très, très, très forte. Donc, puisque sa présence est très forte, il y a quand même une sorte de direction vers elle, vers même cette page de papier, tout simplement. Mmh. C'est les instructions qui sont dedans vont complètement bouleverser la réalité. Or, en improvisation libre, ce bouleversement, il n'est, je dirais, il est beaucoup plus diaphane, il est beaucoup plus évanescent, même s'il est aussi extrêmement, comment dire, fort. C'est uniquement la présence des uns et des autres, c'est le volume de la pièce, c'est là où on en est, mais il n'y a pas cette singularité-là.
Ou alors, il y en a beaucoup d'attraction.
Voilà, c'est ça. Il peut y avoir beaucoup de points d'attraction, hein, que ce soit l'air qu'on respire, l'acoustique, le volume de la pièce, les réflexions sur les murs, le plafond, le sol, le fait de la présence des uns et des autres, bien sûr, mais c'est beaucoup plus fluide et peut-être plus horizontal. Là, tout d'un coup, il y a une espèce de... Bah, il y a une présence très très forte. Ce serait un peu comme si on mettait une statue au milieu de nous. Et là, tout d'un coup, il y a cette présence de la pierre, là, serait quelque chose d'assez fort.
Alors, je vous propose, voilà, avant de parler de ces statues partitions qui seraient, ouais, ces pouvoirs d'attraction pour les musiciens, on va écouter une de vos improvisations avec l'ensemble Hiatus. Donc, on va essayer d'entendre comment vous régissez. Là, c'est une improvisation libre, on pourrait dire.
Oui, absolument.
Nous écoutions un extrait d'une improvisation libre réalisée par l'ensemble Hiatus. Vous parliez de statue pour la partition, mais c'est vrai que là, quand on écoute ça, on a l'impression que se dessine une sculpture musicale progressivement, avec des angles, des droites, des points. Est-ce que vous décidez au départ vers quoi aller lorsque vous vous lancez dans une improvisation libre comme celle-ci ?
Non, pas du tout. Vraiment, on ne se dit absolument rien, on ne fait aucun plan, il n'y a vraiment aucune orientation qui est donnée, absolument jamais. C'est pour ça qu'on continue à les appeler libres, mais elles ne sont pas libres des circonstances dans lesquelles on les joue. Surtout qu'en plus, cette improvisation, je pense, elle a été jouée juste après qu'on ait joué une pièce. Mais alors vraiment totalement différente au niveau de sa couleur, qui est Four Instruments de Martin Feldman, pièce qui doit, que nous, en tout cas, on joue pendant 25 minutes, donc extraordinairement lentement et le plus doucement possible, comme il est indiqué. Et je pense que cette improvisation-là, c'était juste après. Donc,
c'est une réaction à ce qui s'est passé auparavant.
C'est peut-être une réaction, en tout cas, effectivement, on a joué, ça nous a. Peut-être qu'effectivement, il fallait. Il y a eu un besoin donc non dit entre nous de contraste, mais en tout cas, elle ne serait pas apparue, celle-ci. Et dans l'acoustique du lieu, qu'on a remarqué qu'elle était très réverbérée, c'était dans cet endroit qui s'appelle la Kunststation St. Peter à Cologne, qui est une église dédiée à l'art contemporain et à la musique contemporaine. Et donc l'acoustique joue énormément aussi. Donc en tout cas, surtout pas libre des circonstances, je dirais même extraordinairement soumise aux circonstances, et qui sont celles de notre écoute également, et comment les sons, comment les attaques se répercutent dans le volume de la pièce. Mais non, on continue avec l'ensemble Hiatus à donc mélanger des pièces vraiment écrites et des pièces complètement improvisées, et puis des pièces dont on dit, que l'on appelle ouvertes, comme la
pièce dont on va parler maintenant, qui est Dame Dai de Vinko Globokar, puisque donc vous avez des pièces qui vous ont été écrites, en fait, presque, avec l'ensemble Hiatus. Vous reprenez du répertoire, puisque la musique ouverte existe à peu près depuis la fin des années 50, on va dire ça comme ça. Mais avec Dame Dai, vous avez eu cette rencontre avec Vinko Globokar et les musiciens de l'ensemble Hiatus. Pour préparer une pièce de musique ouverte comme celle-ci, ça prend combien de temps, en fait, avec le compositeur ?
Alors, en fait, le compositeur, lui, il a écrit vraiment dans son coin. C'est-à-dire qu'on a eu peut-être 3 ou 4 réunions avec lui en disant, d'abord pour le convaincre au tout début, parce qu'il ne voulait vraiment plus du tout écrire à ce moment-là. Il avait déjà assez de travail.
Et ça date de 2009, voilà, c'est assez récent.
Et puis, il avait pensé que une pièce d'improvisation, telle que lui l'avait comprise, en tout cas, c'est pas du tout ce qu'il avait envie de faire. Et c'est amusant parce que, à titre personnel, je connais Vinko Globokar depuis un peu plus de 30 ans maintenant, et qu'on en est toujours aux mêmes discussions.
Entre improvisation et écriture.
Oui, et on a chope aussi pas mal sur... et je trouve ça à la fois émouvant par la constance des points de vue, et puis ça prouve que c'est très vivant. Donc, on a eu du mal au départ à le convaincre. Et puis là, vraiment, il a écrit dans son coin. Et donc ensuite, il a amené la partition. Il a fallu que, qu'on la dépiote, quoi, qu'on sache de quoi il est question. On a reconnu, bien sûr, tout à fait ses manières et ses orientations. Il y a beaucoup de choses vraiment qui sont vraiment issues de cet extraordinaire corpus, justement, qui est Laboratorium ou Par une forêt de symboles, etc. Et donc, il a fallu se mettre au travail. Pour nous, c'est vraiment une pièce vraiment écrite. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses écrites sur chaque page. Alors que pour Vinko, c'est ça qui est assez amusant, pour Vinko Globokar, c'est une pièce d'improvisation. Alors, donc on a beaucoup, beaucoup de mal à trouver, en tout cas au niveau de l'expérience que l'on pourrait échanger par les mots, en tout cas un point d'entente, parce que pour nous, c'est vraiment une pièce écrite. On s'est penché dessus.
C'est une partition à lire, vraiment.
Tout à fait, je crois que... Là aussi, même sur l'histoire de l'œuvre ouverte, c'est quand même donc l'œuvre de quelqu'un, même si c'est un processus, même si c'est juste des instructions, mais on doit s'y pencher. C'est déjà un objet sur lequel on se penche et on peut y pencher à nouveau. Et on peut répéter cette action de se pencher sur la pièce, de revenir au texte, ce qui n'est pas du tout le cas de l'improvisation, où même si des choses peuvent s'inscrire en nous, il est très difficile, dans le courant même de la vie quotidienne et de la vie de l'improvisateur, de revenir de manière, je dirais, précise et studieuse sur une trace. Parce que la trace, elle est dans la mémoire, elle peut être sur un enregistrement, mais un enregistrement est déjà une telle transformation du moment qui a été enregistré. Donc là, on peut se pencher, voilà, vraiment, sur l'objet déjà de la partition elle-même.
Sweet love! Just now, in life. To do, we do, life.
Début de Dame Dai et de Vinko Globokar, créé en 2009 par l'ensemble Hiatus, avec vous donc les Kwanin. Ici, on entend des gens qui marchent, par exemple, à un moment, parce que le geste est noté dans les partitions de Vinko Globokar.
Oui, il y a des déplacements, il y a des formes géométriques qui sont aussi bien sur le plateau que dans la partition. Et donc, il y a trois musiciens qui sont fixes, le piano, le synthétiseur, le violoncelle et la percussion. Et tous les autres instrumentistes, mais même ces trois-là aussi vont bouger à un moment, pas les instruments, mais eux-mêmes. Et il y a énormément de déplacements pour justement fabriquer d'autres lignes géométriques, des lignes, des triangles, des ronds, des cercles. Dame Dai veut dire je donne, je prends. Donc c'est un constant échange entre les musiciens et les musiciennes. Échange à tout niveau, que ce soit des regards, que ce soit des sons, que ce soit des matières, etc.
Est-ce que ce serait ça l'improvisation chez Vinko Globokar ? Je donne, je prends.
Oui, sans doute. C'est-à-dire que lui, en tant que compositeur, je crois qu'on ne peut pas diviser chez lui, en tout cas, ces deux disciplines qu'il a en tant que compositeur et improvisateur. Mais en tant que compositeur, je dirais, il a formalisé beaucoup de comportements qui peuvent se passer en improvisation. Et c'est en faisant tout un sommaire de comportements qu'il a pu justement développer certaines choses dans des compositions, y compris dans l'improvisation. Donc il a, je pense, une idée assez claire de ce qui se passe. Il a une idée beaucoup plus à la fois organique et analysée en temps réel. Et donc il a, bien sûr, il y a je donne, je prends dans cette pièce, mais je crois que c'est aussi pour lui... C'est parce que c'est vraiment une nécessité. Et c'est à la fois une nécessité musicale, mais c'est surtout une nécessité sociale. Il y a quelque chose de très utopique, politique, peut-être dans sa démarche. Hein. C'est la communication entre nous. Comment on communique? Est-ce que l'on peut le communiquer? Est-ce que quand je donne, je prends aussi? Est-ce que quand je prends, je donne? Est-ce que ça se passe comme ça? Tout ça, c'est des questionnements qui sont au cœur de sa musique. Et c'est ça qui le fait être assez unique. Hein. Il a un côté justement très... Je trouve magnifiquement utopique par rapport à ça. Utopique au sens d'analyser ce qui se passe et de voir la nécessité de la communication entre les personnes.
Vous parlez de communication, on entend ces voix qui émergent tout d'un coup et qui est un trait chez Vinko Globokar, qui fait émerger tout d'un coup la voix dans plusieurs de ses pièces. Il y a une autre pièce avec laquelle vous êtes venu, Four Systems de Earl Brown, qui elle pose la question de comment l'interpréter, puisque tout est ouvert jusqu'à l'instrumentation. Elle est écrite d'abord pour piano, je crois, enfin c'est pas tout à fait sûr, et tous les instruments possible. Et là, on remonte aux origines de la musique ouverte. Nous sommes en 1954. Earl Brown travaille un peu avec John Cage et crée ses partitions avec des traits. C'est ça à peu près, hein, c'est des traits.
Oui. Et ça, c'est à la suite des premières partitions graphiques de Morton Feldman. Et on doit s'y pencher très, très, très sérieusement, hein, parce que qu'est-ce qu'on fait de ça? Surtout qu'il y a, il y a quand même des indications et il faut vraiment, vraiment être très, très scrupuleux à les lire et à tenter de les comprendre et surtout de les vivre et de les rendre sensibles et puis de voyager avec, parce que c'est un cheminement d'aller de ce type de pièces. Il y a des choses qu'on ne saisit pas du tout au début. Et des fois, ça met des années, non pas à saisir, mais à être saisi, parce que c'est... Et donc, ça prend du temps.
Parce qu'il faut dire, ce sont des traits de différentes épaisseurs, différentes longueurs qui sont posés dans un espace. Donc, Four Systems, c'est vraiment comme s'il y avait quatre portées différentes. Ouais. Mais tout est dit, en gros, il faut le lire comme on le veut, dans l'ordre que l'on veut, dans le sens que l'on veut.
Mais il y a une éducation qui est extrêmement importante, c'est l'histoire de l'espace. C'est-à-dire qu'il tient à ce que ce que l'on voit ne soit pas en deux dimensions, mais réellement en trois dimensions et en mouvement. Donc ça prend du temps pour s'hypnotiser un peu soi-même, je dirais. Il
faut l'acquérir, ça, quand
oui,
même,
c'est ça,
avoir
pour
une
chercher
partition
un
en
état,
trois dimensions.
Tout à fait, pour chercher un état particulier, et ça demande, comme disait Eric Satie, des immobilités sérieuses. Afin de voir la partition en mouvement, donc et ce sans prendre de champignons hallucinogènes, mais c'est un peu de cet ordre-là parce qu'il faut vraiment pouvoir imaginer la partition en mouvement, un peu comme si c'était un très 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 grand mobile de Calder. Hein, qui serait donc en mouvement dans l'espace. Donc après, il se pose plein de questions. Et la chose la plus simple, les traits les plus fins, c'est peut-être, ce sont des objets qui sont loin. Mmh. Les traits les plus gros qui sont plus près. Mais ceux qui sont fins, c'est peut-être de très, très, très fins qui sont près. Et ceux qui sont gros, ce sont de très, 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 très épais qui
mais
sont
qui
loin.
Sont très loin. Ouais.
Voilà. Donc après, il y a ce trouble justement avec ce que l'on voit. Et tout de suite, on est obligé d'interroger nos propres perceptions et de savoir comment on perçoit les choses et puis quelles sont justement nos habitudes et les clichés et les chemins que l'on prend qui sont un peu toujours les mêmes pour percevoir les choses. Donc ce type de pièce qui semble, entre guillemets, facile au premier abord parce qu'il n'y a pas de notes écrites, il n'y a pas de rythme écrit, etc. En fait, sont assez sont des prétextes et vraiment des occasions d'interroger nos propres perceptions. Et ça, c'est vraiment assez fascinant à vivre, en fait.
Un extrait de votre interprétation de Four Systems d'Earl Brown, donc nous sommes en 1954 lors de la composition, et là les coins de Nine, je vous pose la question, sur quoi êtes-vous parti pour interpréter cette partition? Vous êtes dit on lit de gauche à droite, de bas en haut?
Oui, on avait gardé très simplement effectivement de gauche à droite et de haut en bas, et on avait par contre décidé de durée de chaque système, donc il y en a quatre, chaque système de durée différente.
Donc ça se fait en répétition, vraiment, on décide au fur et à mesure d'avoir un système à plusieurs.
C'était vraiment par expérience, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait de jouer un système rapidement, qu'est-ce que ça fait, c'est très important de cette question-là, qu'est-ce que ça fait de le faire, et qu'est-ce que ça fait à l'écoute, plutôt que d'avoir a priori des idées formelles de manière abstraite, quelle va en être l'expérience. Donc c'est pour ça qu'on avait décidé d'avoir des durées différentes de chaque système. Ensuite, chacun était libre de selon la vision, cette vision donc en mouvement, comme dont je parlais tout à l'heure, cette vision spatiale de la partition, de jouer, voilà.
De
jouer des choses. Voilà.
Parce que c'est ça la question, c'est jouer, en tout cas dans des partitions ouvertes comme ça, c'est faire des choix aussi des fois. Et on parlait de tout à l'heure, un peu en off, de l'influence de John Cage sur sa notion de choix. Parce que Earl Brown, lui, vient plutôt du jazz, donc quand il parle d'improvisation, de choix, c'est vraiment l'improvisateur de jazz qui va aller vers là ou vers là avec la culture qu'il a derrière lui. Avec John Cage, que vous avez beaucoup interprété, les Coins de Nine, on ne pose plus la question du choix, on ne pose plus la question de l'intention dans le choix des sons.
Oui, mais justement, entre choix et intention, il y a aussi une grande différence. Après, c'est le cheminement qu'on peut faire justement avec l'œuvre de Cage, sa pensée et l'expérience que l'on en fait. Ensuite, l'histoire de l'intention, c'est très fugace comme question, parce que, en fait, bien évidemment que si on se met devant notre instrument, c'est qu'on a quand même l'intention, cette petite intention de jouer quand même la pièce. Mais à partir du moment où on joue, il faut pouvoir se mettre dans la situation où on est extrêmement poreux à ce qui se passe. C'est-à-dire que ce n'est plus soi avec son soi, justement, qui décide de tout. Mais c'est bien aussi et les circonstances qui vont orienter la manière d'interpréter.
C'est-à-dire l'acoustique du lieu,
exactement.
Voilà, les gens qui sont là.
C'est-à-dire le silence de John Cage, qu'il ne faut jamais, jamais, jamais oublier, le silence de John Cage, qui est ce silence constamment habité par les sons non intentionnels, en tout cas qui n'ont pas l'intention de faire de la musique, hein, comme le bruit de la circulation, comme dans une pièce comme ici, il y a peut-être le bruit de la ventilation. Et toutes ces choses-là sont à entendre autant. Et c'est l'environnement dans lequel on est complètement plongé. Et c'est ce silence-là qui est extrêmement important à vivre pleinement. Puisque l'action que l'on va faire va s'inscrire à l'intérieur de ça et ne sera ni plus ni moins important que le reste. Donc la non-intention, c'est en tout cas la non-intention de prendre le pouvoir sur l'environnement sonore ou sur ce qu'il y a comme activité sonore ou dans les agissements du son. Et ça, c'est sa délicate frontière entre cette initiative que l'on prend et ensuite le fait de réellement vivre ce que cela fait plutôt que d'en prendre possession. Ça, c'est... On met du temps à saisir ça ou être saisi plutôt par ça.
Parce que, par exemple, la partition avec laquelle vous êtes venu, qui s'appelle « Sébarré, Composed Improvisation for Snare Drum Alone », alors je le fais en français, c'est « Sébarré, Improvisation composée pour caisse claire toute seule », qui est écrite en 90, donc à la toute fin de la vie de John Cage. C'est une œuvre autant ouverte que les autres. Est-ce qu'il y a une partie d'écrit, justement, pour pouvoir guider l'intention de l'interprète?
En fait, il y a donc... Et c'est une pièce uniquement avec des instructions. Et ce qui est absolument extraordinaire avec ce type de pièce, c'est que Cage, là, de manière incroyablement généreuse, donne absolument sa méthode de composition. Il ne cache rien de sa méthode de composition. Il l'a toujours dit. Il a dit depuis 1951, j'utilise le yiking, les tirages de yiking pour tirer donc avec ses opérations de hasard, comme il les appelait, absolument tous les paramètres de l'œuvre. Là, il donne absolument la méthode de A à Z. Comme ça, il n'y a plus d'ambiguïté. On sait vraiment comment on doit le faire. Donc, il donne le cadre qui est la durée, c'est 8 minutes. Ensuite, on doit... avec le yiking et avec des tables qui divisent les 64 nombres du yiking, on doit tirer le nombre de mouvements qu'il va y avoir. Peut-être qu'il va y en avoir 3, genre 3 minutes, 3 minutes, 2 minutes. Ensuite, le nombre de coups qui vont être, ou d'actions, il appelle ça des icti, sur la caisse claire. Et ensuite, tous les autres paramètres sont à tirer, c'est-à-dire bien sûr les nuances. Ça peut être les durées, et à chaque fois, ça c'est aussi quelque chose qu'il ne faut vraiment pas rater, comme phrase, il indique, il faut, dès qu'une question apparaît, puisque obligatoirement des questions vont apparaître, il faut pouvoir la tourner de telle manière que l'on puisse en trouver la réponse par le yiking. Donc c'est un travail vraiment aussi compositionnel. Donc là, on a quelque chose d'extraordinairement formel au sens où il donne vraiment sa méthode de composition. Et c'est à l'interprète de se mettre dans ses pas et de faire l'expérience de composer comme John Cage le fait. Et c'est extrêmement joyeux parce qu'ensuite, on doit improviser avec ça, mais en même temps... Plus on fait de tirages, plus il y a des questions qui apparaissent. Donc, on fait encore plus de tirages. Donc, il y a de plus en plus de paramètres qu'on doit fixer. Et ensuite, il faut pouvoir trouver son cheminement à travers ça. Et ce n'est pas facile.
Thank you.
court extrait de John Cage, C'est barré, improvisation composée pour caisse claire seule, de 1990, que vous avez interprété donc Les Coins de Nine, une sorte de composition pour improvisateur à la place de John Cage, c'est à peu près ça.
Oui, oui, tout à fait.
Un jeu entre le hasard et la composition. Cette activité d'improvisateur, à la fois de compositeur, de pédagogue, que vous avez nombreuses, on peut le retrouver sur le site internet de l'ensemble Hiatus, rong.free.fr, que vous retrouverez sur le site de l'émission Le Cri du Patchwork, mais également sur votre site internet personnel, lescoinsdenine.net. Et je conseille aux auditeurs de lire votre ouvrage « Improviser librement », édité aux collections Entre deux de Môme Ludy, où on retrouve un peu tous les items que nous avons cités aujourd'hui, l'improvisation, l'intention, tous ces éléments-là qui font votre qualité d'improvisateur et de musicien. Et on donne rendez-vous, alors ça c'est mon petit plaisir, on donne rendez-vous aux auditeurs dans un an pour les 5 heures de laboratorium de Vinko Globokar, rarement joué, tel quel, puisqu'on entendra la totalité de l'ouvrage de Vinko Globokar. Merci beaucoup Nine.
Merci.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun.
France Musique.
Si je n'écris pas systématiquement des œuvres ouvertes, il n'est pas dit que je n'en écrirai pas si cela me chante. C'est une façon de voir le monde, enfin, de voir le monde comme réseau de possibilités et pas comme certitude. Du temps de Bach, il y avait un prince, puis il y avait ses ministres, puis il y avait la cour, puis il y avait le musicien qui était salarié du prince, et il y avait une structure pyramidale, c'est de la sociologie élémentaire, chacun était à sa place. Aujourd'hui, au temps du romantisme, déjà, ça a commencé à bouger. Beethoven a donné des coups de pied terribles dans ce modèle pyramidal. Beethoven est déjà Mozart. Et ensuite, bon, les choses sont devenues complètement mobiles. Nous ne sommes plus figés à notre place, mais nous bougeons. Eh bien, on peut concevoir une musique qui rend compte de cette mobilité.
Zoom sur Archipel 2 d'André Boukourechliev. Avec ses quatre archipels, composés entre 1966 et 1971, André Boukourechliev donne sa vision de ce que l'on appelle l'œuvre ouverte. Boukourechliev parle plus d'une œuvre mobile, comme un mobile de Calder, où les structures et leur organisation sont laissées au bon vouloir des interprètes. Chaque archipel est constitué de plusieurs propositions, comme plusieurs îlots, que les interprètes atteignent au gré de leur écoute, de leur jeu, empêchant alors toute réinterprétation à l'identique, comme si l'œuvre ne pouvait jamais avoir la même fin, le même devenir.
J'ai beaucoup fréquenté l'avant-garde américaine, pour prononcer ce mot redoutable, qui était encore pas très célèbre à l'époque, qui se réduisait, si on veut, à Cage et Cunningham pour la danse, à Rauschenberg, qui commençait à être très connu à cette époque-là, dans le domaine de la peinture, avait un petit noyau comme ça, de gens un peu off-off, comme on dirait, et eux ont eu une certaine influence sur moi, c'est-à-dire qu'ils m'ont un peu, ils ont un peu soulevé le couvercle de la tradition, je ne dirais pas comme Debussy et Ostrobosch, mais la grande tradition wagnero-schönbergo-webernienne. Ils m'ont un peu libéré de cette pesanteur que nous avons tous, puisque nous sommes inscrits dans cette tradition, et j'ai pu considérer les choses sous l'angle de la mobilité, de la variabilité, et parfois même du hasard. Mais mes archipels sont donc une série d'œuvres assez diverses mais assez cohérentes, qui explorent le domaine de la forme dite ouverte, de la forme dite mobile, qui n'est jamais pareille, identique à elle-même d'une exécution à l'autre, où par conséquent les interprètes ont partie prenante, sont partie prenante, non pas qu'ils improvisent, qu'ils inventent des choses, mais la partition leur propose une pluralité de choses, et c'est à partir de cela que, imprévisiblement, l'œuvre se tisse.
Dans Archipel 2, pour Quatuor à cordes, la liberté d'interprétation de l'œuvre se situe au niveau de l'agencement de blocs, dans lesquels Boukhouresliev a identifié un mode de jeu, une matière musicale propre. Chaque musicien a deux grandes partitions devant lui, entre lesquelles il navigue librement, comme le dit le compositeur. Tout choix imprévisible repose sur l'écoute réciproque des instrumentistes. La partition A peut être considérée comme un seul son modulé et transformé sans cesse. La partition B comprend, elle, sept grandes structures jouées en alternance avec A. Les événements de la partition B sont annoncés par une lettre grecque qui émerge dans l'exécution de la pièce par la voix des interprètes eux-mêmes, comme dans cette version du Quatuor Isaïe où l'on entend distinctement le choix de se diriger vers le moment alpha. Et l'événement alpha joué, il convient de revenir à la partition A, faite de notes tenues. C'est cette alternance de moments statiques et dynamiques qui crée la dramaturgie de l'archipel numéro 2, comme une respiration singulière, assez dramatique, dirait le compositeur. Une manière de conduire les interprètes vers une troisième dimension de cette partition, en disant le mot « rouge ». Rouge, c'est l'indication pour jouer les séquences écrites en rouge sur la partition. Une sorte de dérive sur la feuille, en courts fragments positionnés en cercle. Dans une raréfaction progressive du matériau musical, se répètent des gestes superposés, des boucles devenues des électrons libres laissés à la volonté des interprètes. Si Boukhouresliev ne parle pas d'improvisation, on peut tout de même placer sa recherche d'ouverture entre les improvisations quasiment fermées de Pierre Boulez dans Pli selon Pli et l'ouverture totale du compositeur Earl Brown. Boukhouresliev dit justement à son propos « Chez Brown, l'interprète est à l'écoute de ses partenaires et est appelé à réagir librement à ce qu'il entend, avec un matériau musical élaboré à cet effet. Les interprètes sont de ce fait non les maîtres d'une forme, mais partie prenante d'un processus formel imprévisible et vécu comme nécessaire. C'est cette direction générale qu'ont poursuivi et développé les archipels. Épilogue de notre mois consacré à l'improvisation face à la composition. Merci à Perrine Mingui, réalisatrice du Cri du Patchwork. Nous avions aujourd'hui à la technique Pierre Monteil. Vous pouvez retrouver les noms des interprètes et les références des courts extraits diffusés dans cette émission tout en patchwork en vous baladant sur le site internet de l'émission concocté par Flora Sternadel. La semaine prochaine, nouveau mois, nouveau thème. Nous parlerons tout le mois de mars du bruit, celui qui dérange et celui que l'on aime. Une série d'émissions faites pour déconstruire cette notion si subjective du bruit. Et pour cela, je recevrai le compositeur François Bell, avec qui nous évoquerons la grande aventure du bruit dans les musiques concrètes et acousmatiques. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents en vous abonnant au podcast de l'émission, pour vous créer votre propre patchwork du cri du patchwork. Chers écoutants.
Si je fais 1... Tagaram, 1, parap, 2, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire. 1, parap, 2, 3. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? Bonjour, au revoir. Voilà.
Il est 17h, vous êtes bien sur France Musique. L'heure pour moi de passer la main à Arnaud Merlin et son All That Jazz. C'est à vous, Arnaud.